RCF. La philosophie peut nous aider à penser notre expérience, le quotidien, comme les événements inattendus, dans la monotonie des jours, comme face à l'extraordinaire. Elle peut décrire le visible comme nous ouvrir à l'invisible. Elle nous aide à penser et à vivre. C'est cette recherche passionnante que nous fait partager Marie-Aimée Manchon dans un livre magnifique, étonnant, alentour du verset « Une petite phénoménologie des mystères » paru aux éditions Ad Solem. Bonjour Marie-Aimée Manchon.
Bonjour.
Soyez la bienvenue dans Dialogue.
Merci.
Marie-Aimée, vous êtes moniale, vous appartenez aux fraternités monastiques de Jérusalem. Vous êtes aussi philosophe, chargée d'enseignement au Collège des Bernardins et à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. Vous enseignez la philosophie contemporaine en particulier. Vous appuyez sur la phénoménologie plutôt que sur la grande tradition métaphysique. Pourquoi ce choix, la philosophie contemporaine ?
Je crois qu'on est aussi formaté par ce par quoi nous avons été formés, émerveillés au début. Donc moi j'avoue que quand j'ai fait mes études de philosophie, j'ai découvert la phénoménologie à travers la figure de Lévinas, qui a été le grand amour philosophique de ma jeunesse. Et je pense que c'est à cause de Lévinas que j'ai voulu continuer dans cette branche de la philosophie, sachant que j'aime beaucoup aussi l'idée de la contemporanéité de la réflexion, de croire que on peut penser aujourd'hui et que ça nous aide aujourd'hui, même si bien sûr tout auteur ancien aussi nous donne à penser aujourd'hui. Mais j'aime bien ce va-et-vient dans le XXe siècle et XXIe siècle que permet la réflexion phénoménologique.
Le titre de votre ouvrage, « Alentour du verset », est un écho à la pensée de Lévinas.
Oui, tout à fait, puisqu'il a écrit « Au-delà du verset »,« L'au-delà du verset ». Et j'ai voulu à la fois... me mettre dans sa lignée, voilà, et puis en même temps me démarquer un peu, puisque l'idée de l'au-delà, c'est l'idée d'une symbolique, d'une interprétation à travers chez lui les écrits talmudiques sur le verset biblique, et puis donc la philosophie à l'aune, voilà, du Talmud, et moi en tant que moniale chrétienne, bien sûr, j'ai voulu privilégier un principe d'incarnation et l'alentour du verset, donc autour du verset biblique aussi, mais voilà, tout près, tout proche, dans l'épaisseur de l'humain, essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire cette mise en regard entre le mystère de Dieu et les mystères de l'homme.
Vous appuyez sur la grande tradition phénoménologique du XXe siècle. Peut-être pour nos auditeurs, nous pourrions préciser ce que vous a apporté cette phénoménologie, cette philosophie contemporaine.
La phénoménologie, c'est un style de philosophie dans la pensée contemporaine. Il y a plusieurs manières de penser, bien sûr, comme il y a plusieurs manières de théologiser, je crois. Et donc c'est juste une manière particulière, un style. J'aime bien dire un style parce que ça fait penser aussi au style de vie, un style de pensée qui cherche à comprendre comment les choses se donnent à nous, comment elles apparaissent et quel monde ça ouvre, quel monde nouveau ça ouvre. Par exemple, le phénomène de la fatigue fait ouvrir le monde autrement, il est délité, le phénomène de la liturgie fait ouvrir le monde autrement. Je suis pas dans la profanité, je suis devant Dieu et chaque homme devient mon frère. Je suis, comme dit Romano Guardini, dans le monde bien portant. Donc c'est cette ouverture, cette nouvelle manière d'apparaître que la phénoménologie cherche à décrire.
Ce qui peut paraître paradoxal, c'est que la philosophie prête ici attention à l'expérience, à la perception, à la dimension du corps, à la présence au monde, et que vous ouvrez aussi un questionnement sur le sacré, sur l'invisible, sur la transcendance.
Oui, parce que je pense que...
Ce qui ne peut pas être directement perçu, enfin, pour l'expérience ordinaire,
Mais ce qui est intéressant, justement, dans la phénoménologie, c'est qu'on cherche à voir à comprendre ce qui apparaît, ce qui se donne, et ce qui se donne n'est pas forcément seulement ce qui apparaît. Il y a de l'inapparent qui se donne dans l'apparition, et l'être en prière fait partie du phénomène, des phénomènes humains qui sont dans le monde. Et pourtant, celui qui prie, il y a quelque chose de mystérieux. À qui s'adresse-t-il? Lui dit qu'il s'adresse à quelqu'un et il le vit comme ça. Il vit cette expérience comme adressé, comme orienté vers l'invisible, vers Dieu. Voilà, donc c'est ces questions-là qui sont intéressantes, je crois, vraiment. C'est là où il y a de l'invisible et que ça devient intéressant.
C'est ce qu'on perçoit effectivement dans votre ouvrage, au fil des pages. C'est un livre qui est tout à fait original, qui suit les mystères de la vie du Christ, donc les grands moments de la vie du Christ, et qui propose une réflexion philosophique appuyée sur des auteurs contemporains et qui suit étape après étape, on va dire, ces grands moments que nous connaissons, mais que nous redécouvrons de manière très, très originale.
Voilà, j'ai voulu en fait, j'ai voulu mettre en regard la philosophie contemporaine dans les grands thèmes qui touchent aujourd'hui, la fatigue, l'oubli, l'événement, la présence, l'angoisse, enfin, voilà, des thèmes qui sont prégnants dans la philosophie. Et aussi, du coup, dans notre vie, hein, enfin, pour que la philosophie soit pas déconnectée du réel, mais soit vraiment quelque chose qui nous aide à vivre. Et puis, en même temps, voir comment le Christ vit et a traversé tout ça et l'a pris. Et donc, faire cette philosophie de mise en regard, comme on a deux textes l'un à côté de l'autre. Là, on a la figure du Christ et puis la pensée contemporaine, et voir comment on peut passer de l'un à l'autre, quel lien, quelle lumière, quelle épaisseur ça peut donner. C'était ça un peu l'idée. Donc j'ai fait le choix, du coup, pour avoir la vie du Christ en entier, de prendre les grands tableaux du rosaire, parce que ça, c'était une façon pédagogique et pratique d'avoir la vie du Christ découpée par mystère, les mystères du rosaire, et en même temps de ne citer quasiment que des philosophes, de m'appuyer que sur des citations de philosophes. Bon, il y a bien quelques spirituels, auteurs spirituels, parce que je peux pas me renier complètement en tant que moniale, mais j'ai fait exprès qu'il n'y ait presque pas de théologiens cités dans ce livre, à part Hans-Urs von Balthasar et François-Xavier Duruel, parce que je voulais montrer que la philosophie peut aussi donner à prier, et que le mystère peut aussi donner à penser. Voilà, qu'il n'y a pas une scission qu'on entend trop souvent, ou qu'on vit trop souvent entre raison et oraison. Voilà.
Et comment est né ce projet très original d'une phénoménologie des mystères? Quel sens donnez-vous à ces mystères?
Alors, je pense que c'est né de ma vie, tout simplement. C'est-à-dire que il y a une manière d'intégrer ce qu'on étudie. Et dans la vie monastique, il y a une unification de l'être. Je cherchais quelque chose que ma pensée ne soit pas complètement détournée de ou ailleurs que mon cœur, mais d'unifier tout ça. Et je crois que dans la liturgie, j'apprends en tant que moniale à unifier la pensée et le cœur. Et j'ai voulu faire partager quelque chose de mon émerveillement dans ce livre.
Dialogue présenté par Sarah Brunel.
Marie-Aimée Manchon, vous avez une immense culture philosophique et vous avez aussi la capacité de vous appuyer sur ces lectures pour penser notre présent, pour réunir dans une même expérience, dans un même présent, notre expérience actuelle, celle de notre condition humaine, et le temps qui fut le présent des évangiles. Prenons le temps de faire découvrir à nos auditeurs votre méditation, de partager, de suivre pas à pas aussi vos analyses qui sont très singulières. Vous consacrez un chapitre de votre livre au mystère de douleur, à la mort du Christ, dont le titre est étonnant, « De l'oubli ». Pourquoi ce titre ?
cela vient d'un psaume, qui parle du fait que dans la mort, nous descendons au pays de l'oubli. Et bien sûr, j'ai pas pu m'empêcher de penser que cette description de l'Hadès, du Sheol, plutôt du Sheol hébraïque, faisait...
Le Sheol hébraïque, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire donc ces enfers, ce pays de l'oubli dans lequel on descend sans savoir vraiment si Dieu se souvient encore de nous. Enfin, dans la mort, on sait pas trop. Hein, qu'est-ce que c'est, cette espèce d'inexistence, mais qui en même temps... jusqu'où est-ce qu'elle se continue ou pas, ça rappelle l'Hadès grec et cette notion d'oubli, justement, on est oublié des hommes quand on est mort, on est peut-être oublié de Dieu, c'est finalement ce qui nous fait le plus peur. En réalité, je me suis dit que cet oubli des anciens avait le goût du néant des modernes, c'est-à-dire que on a peur de la mort, peut-être pas tant du néant, mais on a peur d'être oublié.
Ce thème de l'oubli, enfin ce lien de l'oubli et de la mort est une constante dans nos civilisations, des Grecs avec effectivement l'Hadès et ces âmes qui traversent le fleuve du Léthé, qui était le fleuve de l'oubli, puis effectivement dans le monde juif. Qu'est-ce qui se joue plus particulièrement alors dans le christianisme pour vous, dans ce rapport de l'oubli
Alors justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'oubli a à voir avec la mort aussi parce que on peut comprendre le péché comme un oubli de la filiation divine, comme une omission de notre condition de fils. C'est ce que dit Michel Henry, philosophe. Et dans ce cas-là, le Christ qui descend au pays de l'oubli, qui descend dans la mort, qui descend, lui, il va y descendre comme fils unique. Et c'est de cette manière-là qu'il va, ce que j'appelle, nous désoublier. Nous rappeler à notre condition de fils. Et pourquoi j'utilise ce mot désoubli ? Parce que, c'est la traduction littérale que Heidegger a donnée du mot vérité. Vérité, aletheia en grec, et vous avez parlé du fleuve Léthé. C'est le a privatif du fleuve de l'oubli. Donc la vérité, c'est ce qui nous désoublie. Et j'ai voulu montrer dans ce chapitre que le Christ, c'est celui qui va, en sa vérité de fils, comme fils unique, nous rappeler à notre condition d'enfant de Dieu. Et c'est comme cela qu'il va nous sauver, nous ramener à la paternité du Père et en même temps à notre condition de frère, à être vraiment frère entre nous.
Ce sens de l'oubli est complexe parce que qu'est-ce qui se passe dans les évangiles ? Le crucifié est un condamné et vous précisez que c'est celui dont le nom aussi risque d'être effacé. Il a été injustement condamné par Pilate qui finalement a voulu le condamner à l'oubli, non ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans la condamnation à mort, dans le supplice, à l'époque, c'est pas seulement torturer quelqu'un jusqu'à ce que mort s'en suive, mais c'est aussi s'arranger pour que son nom soit effacé, pour que il soit tellement dans la diffamation quelque part qu'on ne puisse même plus le nommer tellement il est ostracisé finalement de la société des hommes. Les condamnés à mort n'avaient pas de stèle funéraire à cause de ça, pour qu'on oublie jusqu'à leur nom. Et finalement, le Christ, on a voulu le faire mourir et d'une certaine manière oublier jusqu'à son nom en le faisant mourir de la mort des condamnés.
Ce qui signifie aussi, cet oubli signifie une occultation de la vérité.
Bien sûr, c'est le péché par excellence, c'est le mensonge par excellence, c'est le père du mensonge, comme on dit, pour parler de la figure du mal, qui veut justement que l'homme ne puisse plus avoir aucune possibilité d'ouverture vers sa filiation divine. J'ai dit quelque part que le mal, le diable, Satan, voilà, comme on veut, veut tuer le Père. Voilà. Et comme il peut pas tuer le Père, c'est-à-dire Dieu frontalement, puisque Dieu est immortel, Dieu est Dieu, quoi. Lui il n'est que créature, mais comme il ne peut pas le faire, il va essayer de le tuer dans l'âme de ses enfants. Donc il va essayer de faire en sorte que nous, on crache à la face de Dieu en lui disant, on n'a pas besoin de toi, on peut se passer de toi, on t'oublie, on t'omet. Et c'est ça le péché finalement. Et le Christ, c'est vraiment celui qui est fils jusqu'au bout, qui dit je suis venu pour que vous sachiez que j'aime mon Père et que je fais tout ce que le Père m'a enseigné. Et on va être sauvé en devenant fils dans le Fils. Voilà.
Ce que vous montrez aussi, c'est qu'il y a deux sens de l'oubli, un bon oubli et un mauvais oubli, un oubli lumineux et un oubli qui nous plonge aussi dans l'épreuve, dans la souffrance, un oubli qui peut être destructeur ou mortifère. Comment pourriez-vous décrire, voilà, expliciter cette distinction ?
Il y a une autre phrase de psaume qui peut aider, qui dit « Ne te souviens pas de mes péchés, mais de moi, Seigneur, souviens-toi en ton amour ». Donc le bon oubli, c'est celui du pardon, qui n'est pas justement l'oubli dans le sens où on ferait comme si il n'y avait pas eu faute ou péché, mais qui est une sorte qui est une rémission au sens de on met dans la remise, comme on met quelque chose d'encombrant dans une remise, on le met loin, on l'éloigne, on n'y revient plus. Donc c'est pas que ça n'a pas eu lieu, c'est pas un oubli, un effacement, mais le fait que on va passer dessus, on va passer à travers, on va aller plus loin qu'eux, on va avoir un don par-delà ça, un pardon, voilà. Et puis donc ça c'est un oubli, si je puis dire, enfin c'est la letheia du pardon, c'est quelque chose de lumineux. Et puis c'est là où Dieu ne se souvient pas de nos péchés, mais nous se souvient de nous. Mais par contre, il y a aussi un oubli qui serait, comment dire, il ne s'agit pas de ne rien oublier dans le sens du ressentiment. Hein, Nietzsche fait du pardon l'oubli dans le sens que voilà, on ferait comme s'il n'y avait pas eu. Mais ce n'est pas ça, en fait, le pardon. Le pardon, ce n'est pas d'oublier, mais en même temps, c'est de passer par-dessus, voilà.
Dialogue, Sarah Brunel.
Marie-Aimée Manchon, nous réfléchissons sur le sens du pardon. Pardonner, ce n'est pas effacer, ce n'est pas oublier. Il y a aussi la question des limites, peut-être, de ce pardon ou par rapport à notre humaine condition. Existe-t-il quelque chose comme de l'impardonnable ? N'est-ce pas ici quelque chose qui relève d'un mystère aussi pour nous ? Pourquoi cette épreuve ? Pourquoi cette souffrance radicale ? Quelque chose qui nous accable, que nous vivons aussi dans le pardon. Y a-t-il pour vous quelque chose comme un impardonnable qui serait l'indice d'un oubli peut-être plus radical ?
Alors la question de l'impardonnable, bien sûr, c'est une question extrêmement travaillée en philosophie au XXe siècle. Après tous les drames du XXe siècle qu'on connaît, Yankelevitch, par exemple, a vraiment dit que le pardon était mort dans les camps de la mort, et que donc il y a un impardonnable et qui est peut-être, comme il dit, qui se veut le dernier mot, voilà. Mais plus tard, dans son livre sur le pardon, il dit aussi. Mais le dernier, peut-être, n'est que l'avant-dernier. C'est-à-dire qu'il y a quand même une espérance. Et Jacques Derrida va dire justement, c'est quand il y a de l'impardonnable que le pardon commence. Parce que finalement, pardonner ce qui est pardonnable, bien c'est ce qui nous rend humains, mais c'est un peu la moindre des choses, quelque part. Pour être vraiment humain, sinon on se déshumanise soi-même en refusant le pardon.
Et c'est ce qui fait aussi l'actualité de cette réflexion sur le pardon. Vous proposez une lecture assez originale de la fameuse formule de Nietzsche, le Dieu est mort, dans son livre Le Gai Savoir. Je rappelle l'histoire, un homme qui est fou, qui est dément, annonce en plein midi la mort de Dieu, et ça provoque le rire, les moqueries de la foule. C'est un peu notre situation, peut-être celle de la modernité, celle du désenchantement du monde. Comment comprendre cette formule, cette... Qu'en pensez-vous ?
Oui, c'est sûr que c'est la formule de la modernité. Je crois justement, ce qui m'intéresse, c'est quand Jésus va voir va ressusciter la petite fille de Jaïr et tout le monde dit elle est morte et effectivement elle est morte, mais Jésus dit elle n'est pas morte, elle dort. Voilà, et il la ressuscite. C'est-à-dire que pour Dieu, la mort, c'est peut-être pas ce que nous on entend par mort. C'est-à-dire c'est seulement une déposition, un endormissement quelque part. Il y a un éveil possible. Dieu peut toujours ressusciter. Il est un Dieu de résurrection. Et donc ce Dieu mort, peut-être c'est celui, Jean-Luc Marion dit, c'est le Dieu du concept qui est mort, c'est le Dieu métaphysique devant lequel personne ne peut se mettre à genoux, parce que qui est-ce qui va prier un Dieu cause première de toute chose, ou qui en tout cas est froid comme la règle morale.
Voilà. Il nous est devenu étranger.
Voilà, celui-là qui meurt, pas de problème, oui. Quelque part. Très bien, mais celui qui doit ressuscité, c'est celui qui nous rencontre, voilà, celui qui nous rencontre et qui vient à notre rencontre. Et c'est le mystère de la résurrection, c'est le Dieu inespéré, c'est le Dieu justement où quand on croit que tout est perdu, tout est mort, non, il produit de l'inespéré, de l'inattendu, et c'est la marque, la signature de Dieu pour Jean-Louis Chrétien, cet inespéré.
C'est aussi une grande question ou une source de questionnement pour nous. Je reviens à Nietzsche lorsqu'il évoquait la force du ressentiment dans une morale qu'il décrit comme une morale issue du christianisme, mais en fait il parle d'autre chose, c'est-à-dire est-ce que une religion peut être véritablement moralisée, et si elle se moralise, est-ce qu'elle ne se vide pas de son contenu, de sa puissance? Et ce qu'a fait le Christ, ce que vous décrivez, c'est complètement nouveau, c'est complètement inouï, c'est au-delà de toute morale, non?
Oui, je pense qu'on ne peut pas réduire le christianisme à une morale, et que c'est sans doute le problème du christianisme tel qu'il est pensé à partir des Lumières et après, Dieu dans les limites de la simple raison, ou bien justement cette manière de Nietzsche qu'a Nietzsche de lire le christianisme et du coup de le déprécier. Bien sûr qu'il y a une éthique de vie qui va se mettre en place à partir du moment où on rencontre Dieu, où on rencontre le Christ. Il y a quelque chose qui change dans notre vie, et on va vouloir vivre d'une manière qui sera plus conforme à celle d'enfant de Dieu, justement à notre filiation, quand on la découvre, quand on se sent fils de Dieu, fils et fille dans le Christ. On va vivre peut-être autrement, justement on va peut-être avoir une conduite morale dans ce sens-là, si vous voulez, en tout cas c'est ce qu'il faudrait un minimum, mais je crois que justement le christianisme n'est absolument pas réductible à une morale. Il est une rencontre avec quelqu'un, et la rencontre avec une présence, avec quelqu'un, ça a du charme, et c'est pas du tout quelque chose qui nous étriques, qui nous rend crispés, au contraire, c'est quelque chose qui doit élargir le cœur, faire respirer.
Oui, qui ne nous referme pas sur nous-mêmes, mais qui nous ouvre, effectivement. Alors peut-être que Nietzsche a eu, malgré son caractère provocateur, cette acuité de dénoncer ce qui pourrait être finalement une perte de substance ou une menace. Et vous rappelez également que finalement, avec l'expérience du pardon, quelque chose nous sauver de l'oubli, vous dites de l'oubli, et nous rappelle que nous avons quelque chose peut-être comme une dette.
Oui, bien sûr, il y a vraiment cette idée que en nous, comme nous sommes fils et filles de Dieu créés à sa ressemblance, à son image, on découvre qu'on a la dette de l'amour, tout simplement, que nous dépendons d'un amour plus grand que nous, nous dépendons d'un ailleurs, et qui est notre joie. Cette dette est notre joie, nous ne sommes pas autosuffisants, autodépendants.
Je vous remercie, Sœur Marie-Aimée. J'invite nos auditeurs à découvrir le magnifique livre de Marie-Aimée Manchon, Alentour du verset, une petite phénoménologie des mystères, paru aux très belles éditions Ad Solem.